Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Chaque automne, des millions d'oiseaux migrateurs quittent leurs aires de reproduction et entreprennent un long voyage vers leur zone d'hivernage, située à plusieurs milliers de kilomètres. Au printemps, c'est le moment de prendre le chemin en sens inverse et de se reproduire. Depuis quelques années, le réchauffement climatique laisse des traces sur ces voyageurs. À quels défis nos amis à plumes sont confrontés ? En Bretagne, quelles solutions sont envisagées pour les protéger ? C'est une partie des questions auxquelles Bernard Cadieu, ornithologue de l'association Bretagne Vivante, répondra dans quelques instants. Mais avant, on prend la direction de l'étang de Noyalot, où l'on retrouve David Lédan, ornithologue du parc naturel du golfe du Morbihan, en pleine observation, en compagnie de Mathieu Perret, de votre radio locale et associative Plume FM, implantée à Séran et Redon.
Toujours les jumelles à portée de main.
On va aller juste un peu plus loin.
Ouais.
Histoire qu'on n'ait pas les bruits de la route.
Tiens, viens.
On va aller se planquer. 2, 3. Tu vois, pareil. 1, 2, 3.
Tu les as pas vus.
T'es incapable de dire s'il y en a au moins 3. Tiens, plap, plap, ça répond. La deuxième est là. Il y en a une là, l'autre là-bas. J'aime bien ces arbres là, les arbres morts là.
Mais là, vu qu'il y a le mec à la pêche, tu vas pas être là.
Il y en a deux. Je les ai vus tout à l'heure à l'autre côté. Il y a un adulte, un mâle et un jeune.
Est-ce que tu peux nous décrire où on est ?
On est sur les bords de l'étang de Noyalot, là. On est mi-septembre, c'est vraiment le gros passage migratoire. Il y a plein d'oiseaux qui sont juste en transit, qui sont en général partis pondre leurs œufs en Scandinavie, en Russie, puis qui vont aller passer l'hiver en Afrique, et qui sont là juste pour quelques heures, pour quelques jours, en halte. Ils vont refaire leurs plumes, reconstituer des réserves de graisse, et puis ils vont continuer la migration, quoi. On est un peu dans le fond de l'étang, là, dans une partie un peu tranquille, et puis surtout pour essayer de retrouver les oiseaux. Puis ça, c'est la réserve d'eau potable de Vannes. Hein, il y a une partie des terrains qui ont été noyés. On voit d'ailleurs les piquets, les poteaux des anciennes clôtures qui sont habituellement sous l'eau. Là, on est vraiment sur un niveau d'eau exceptionnellement bas. Hein, je ne surprendrai personne, puisque dans le moment, évidemment... Là, je crois que le niveau d'eau, depuis que moi je suis là, depuis 30 ans, il n'a jamais été aussi bas. C'est-à-dire même 2003, c'était quasiment ce niveau-là, mais en tous les cas, pas plus bas que ça. Alors, c'est pas des réserves, hein, ça c'est même un espace qui n'est pas protégé. Il y a une réserve, la réserve naturelle d'État des marais de Séné, donc qui fait un peu plus de 500 hectares. Il y a une réserve. Après, il y a plein d'endroits, on va dire, protégés, que ce soit des espaces naturels du département, que ce soit des sites inscrits au patrimoine du Conservatoire du Littoral. Donc il y a pas mal d'endroits comme ça, hein, plusieurs centaines d'hectares, où évidemment les oiseaux vont trouver un endroit tranquille pour accomplir leur cycle de vie, que ce soit de la reproduction, hein, sur avril, mai, juin, juillet, reproduction des oiseaux, mais aussi des oiseaux qui vont venir de Russie, de Scandinavie, qui vont venir passer l'hiver chez nous, et qui vont trouver là un site confortable, où ça gèle pas, où la nourriture est tout le temps disponible. Plus les migrateurs de passage, qui eux utilisent l'Europe, de l'Ouest en particulier, le Golfe, juste comme halte migratoire entre l'Afrique et les tropiques. Donc là, on est à la recherche du balbuzard pêcheur, qui est un grand aigle qui doit faire à peu près 1,80 m d'envergure, qui ne se nourrit exclusivement de poissons. Donc il est tout le temps en pêche, et donc il va survoler comme ça l'étang. Alors c'est un des sites privilégiés en Bretagne. Hein. Là, il en passe entre 40 et 60, suivant les années. Et donc il y a tous les arbres qu'on voit là devant nous, là, les arbres morts, il aime bien se stationner là, il arrive là avec son poisson, puis il mange. Il va passer comme ça au-dessus de l'étang plusieurs fois, puis quand les carpes ou les gardons ils vont venir respirer à la surface, il a un espèce de vol stationnaire. Là. Puis après il replie les ailes et il va taper la surface de l'eau, mais des fois il descend de 20-30 mètres, là, une énorme gerbe d'eau. Et donc il va saisir son poisson, et puis après, alors pour lui le plus dur c'est ressortir de l'eau, puisqu'il va être complètement immergé, il y a des fois il n'y a que la tête qui sort. Et puis il va ressortir de l'eau avec son poisson, alors quand c'est des petites proies, ben, il n'a pas trop de mal. Il y a des fois, il en bave. Hein. Je l'ai vu avec des plis qui faisaient 30-40 cm de diamètre. Je l'ai vu avec des carpes qui faisaient 3-4 kg. Et là, pour lui, c'est un vrai défi, sachant que Il a un problème avec ses serres, c'est qu'une fois que c'est serré sur la proie, il a beaucoup de mal à les lâcher, quoi. Donc pour lui, c'est un gros défi, quoi.
Alors c'est quoi les outils privilégiés de l'ornithologue?
C'est surtout une paire de bottes et une bonne paire de jumelles. Après, évidemment, au fur et à mesure, tu vas développer d'autres stratagèmes. Entre autres, mes oreilles me sont d'une utilité redoutable parce que c'est plus fiable. Et ça permet sur des milieux comme les zones boisées, comme les roselières, des endroits où finalement l'utilisation de la vue est assez délicate, de supplanter ce handicap et de quand même trouver les espèces. Donc j'entends plus que je ne vois.
Distinguer des individus peut-être sur le coup, après pour les reconnaître d'une année sur l'autre c'est peut-être plus compliqué, alors j'imagine qu'il y a aussi des bagages peut-être.
Voilà, on peut aussi baguer les oiseaux, ça c'est quelque chose qu'on fait tous les mois d'août. On bague un petit passereau qui s'appelle le phragmite aquatique, qui est comme un migrateur de passage, qui va nicher en Pologne ou en Biélorussie, et puis qui va passer l'hiver entre Mali, Niger, Nigeria, Mauritanie. Tous les ans, il y a une halte migratoire qui se passe, et puis on les capture pour les peser, les mesurer, et puis voir si, surtout si on peut récupérer des oiseaux qu'on aurait déjà bagués. Donc c'était une très mauvaise année à phragmite cette année, puisque le marais où on bague à Ambon était à sec. Et donc du coup, on a fait très très peu de captures, donc très vite on a abandonné, alors que d'habitude on bague quasiment sur 3 semaines. Là, au bout de 10 jours, on ne prenait pas d'oiseaux, donc on a très vite laissé tomber.
Donc quand on parle du changement climatique, de son impact, là concrètement, on casse un garde-manger.
On a cassé une halte migratoire, alors peut-être qu'ils ont trouvé une halte meilleure ailleurs. En tous les cas, pour le phragmite, il est capable de faire ça, d'aller chercher ailleurs une ressource de nourriture, mais d'autres oiseaux ne sont pas capables de le faire, donc ça va poser des problèmes si à moyen terme ça se profile. Ce ne sera plus des étés exceptionnels, quoi. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on s'y prépare en termes de réserve d'eau, en termes de réflexion, en tous les cas sur l'importance de l'eau. Ça va être une grosse réflexion à avoir. On n'a jamais autant parlé d'environnement que dans le moment, vraiment, c'est au cœur de toutes les discussions. Après, il va falloir transformer l'essai quand même. Tout le monde en parle, tout le monde est d'accord, tant que ça ne te concerne pas directement et tant que ça n'impacte pas ton portefeuille. Donc c'est là où il va falloir qu'on soit meilleur, c'est qu'on accepte que ça soit plus cher, que ce soit plus compliqué. Il va falloir qu'on accepte ces contraintes environnementales et justement pas les voir comme une contrainte, les voir comme une obligation à transmettre une planète aussi bonne que celle dont on a eu en héritage. Et pour ça, il ne faut pas voir ça comme une contrainte, il faut voir ça comme une évolution. On ne va pas avoir le choix de maîtriser complètement l'eau, on ne va pas avoir le choix de faire des économies d'énergie. Ça va devenir obligatoire, ce n'est pas une option.
Et donc sur ces 30 ans, quelles ont été les fortes évolutions des espèces, leur adaptation peut-être?
Leur adaptation, pas trop, c'est un peu le problème. C'est-à-dire ce que les oiseaux, en particulier, puisque je vais parler de ce que je connais le mieux, de ce que les oiseaux ont façonné à leur rythme de vie ou à leur chose, ça a pris des milliers d'années. Et là, quasiment en 20 ou 30 ans, il faudrait qu'ils changent des milliers d'années d'évolution. Donc ça, c'est compliqué. Des choses évidemment flagrantes, on voit bien l'absence d'hiver, en tous les cas, dans le golfe du Morbihan. Là, ça y est, si on a maintenant 3 soirées à -1, c'est tout. Donc par exemple, moi, quand je suis arrivé, le joyau, la perle rare du golfe, c'était le garrot à œil d'or. Il y en avait 800 dans le golfe, c'était le site français. Tout le monde venait voir les garrots à œil d'or dans le golfe du Morbihan en 1993. L'année dernière, il en restait 6. On est passé de 800 à 6 en 30 ans. Vraisemblablement, dans 1 ou 2 ans, il n'y a plus de garrots. À l'inverse, il y a 30 ans, il n'y avait pas de héron garde-bœufs, il n'y avait pas de mouette mélanocéphale, il n'y avait pas d'ibis falcinelle. Et ces oiseaux-là arrivent du sud, petit à petit trouvent une niche écologique qui leur convient, donc continuent à monter. Donc pour les mouettes mélanocéphales, c'était au début des années 2000 où on a commencé à avoir les premières. Là maintenant, il y en a des milliers, il y en a 3 ou 4 000 là, dans le golfe dans le moment.
Quel est pour toi finalement, là aujourd'hui, le travail, c'est l'inventaire, c'est la protection, c'est la mise en place de corridors. Comment est-ce qu'on avise là au PNR pour justement, au-delà de l'inventaire, favoriser leur implantation?
C'est un peu un mix des trois. D'abord, la connaissance, elle est essentielle. C'est-à-dire que de toute façon, si tu ne sais pas que ça existe, tu ne peux pas ne serait-ce que déjà informer les gens que ça existe. Donc d'abord, tu as toi, on va dire, une mission de découverte, de savoir si l'espèce, elle est là, si elle est fragile, si elle n'est pas fragile, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Après, la deuxième mission, c'est d'informer les gens, les décideurs, les élus, de leur dire, attention, à tel endroit, vous avez ça. On a une responsabilité locale, départementale, régionale, voire nationale sur cette espèce parce que les effectifs sont en petit nombre. Et puis derrière, une fois que tu as informé, que tu as fait ces choses-là, c'est collégialement, élus, propriétaires privés, utilisateurs des espaces naturels, que ce soit les chasseurs, les propriétaires, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ensemble pour maintenir ça, pour faire en sorte que ça... Et c'est là que ça coince, puisque là, forcément, on va rentrer le côté contrainte, ou qu'elle soit financière, ou qu'elle soit dans des activités, voilà, ça va amputer. Puis après, c'est aussi ça, c'est trouver comment on peut faire en sorte que tel ou tel animal, qu'elle soit végétale ou animale, puisse continuer à perdurer, en acceptant, on va dire, un dérangement potentiel par telle ou telle activité. Et c'est là où, justement, c'est vraiment un espèce de compromis, c'est vraiment une approche multifactorielle où qu'est-ce que l'espèce va supporter, qu'est-ce que l'activité peut retirer pour que tout le monde puisse vivre dans le même espace. Et le travail du parc naturel, c'est ça, c'est un boulot d'équilibriste sur comment on vit ensemble avec des espèces fragiles dont on a devoir, nécessité. C'est pour ça que plus ça va avec l'âge, je vieillis mal, je crois. Je deviens de plus en plus véhément pour dire, attention, on nous a transmis un joyau merveilleux qu'est le golfe du Morbihan. Ce qu'on va transmettre aux générations à venir, c'est pas si beau. Et c'est à nous de transmettre ce golfe, de préserver ce golfe pour que les générations à venir puissent voir la loutre, voir les balbuzards, trouver les échasses qui nichent, et puis peut-être des nouvelles espèces. Mais en tous les cas, en essayant de transmettre le mieux possible quelque chose dont on a hérité.
Voilà à l'instant ce reportage signé Mathieu Perret de votre radio locale et associative Plume FM à Serran et Redon. Reportage sur l'observation ornithologique et l'évolution en fonction du changement climatique mené au bord de l'étang de Noyalo dans le Morbihan. Pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes en ligne avec Bernard Cadieu, ornithologue au sein de Bretagne Vivante, principale association de protection de la nature et de la biodiversité en Bretagne. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Pour commencer, comment réagissez-vous au reportage que l'on vient d'entendre sur cet exemple d'observation ornithologique mené à l'étang de Noyalo dans le Morbihan ?
Le constat qui est fait dans ce reportage reflète ce que les ornithologues observent ces dernières décennies, que ce soit à l'échelle régionale, nationale ou internationale, à savoir que le changement climatique a un impact sur les oiseaux et notamment sur leur migration.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment les espèces s'adaptent à ces changements climatiques, ces changements de température ?
Les réponses vont être variées en fonction déjà de la biologie des espèces, puisque toutes les espèces ne sont pas migratrices. Donc celles qui sont migratrices peuvent changer leur déplacement migratoire du fait que les conditions de vie changent sur leur zone de reproduction ou sur leur trajet migratoire habituel. Ça, c'est donc en termes de comportement, on peut avoir des modifications. Et après, on peut même avoir, dans certains cas, des modifications morphologiques, puisque une même espèce peut être plus grosse, la taille des individus peut être plus importante dans les régions froides que dans les régions plus tempérées. Ça, c'est un des éléments. Et aussi, les oiseaux peuvent avoir des modifications de coloration, c'est-à-dire que les plumages les plus sombres sont plus adaptés à des températures froides. Donc on peut observer aussi des modifications morphologiques en lien avec les changements climatiques.
Quelles sont les espèces d'oiseaux en Bretagne les plus vulnérables à ces changements, selon vos observations ?
Le terme de vulnérable est un peu compliqué parce que si on a des modifications des aires d'hivernage, par exemple, un déclin qu'on observe en Bretagne ne veut pas dire qu'il y a un déclin pour l'espèce. Et donc, c'est pas une question de vulnérabilité de l'espèce, c'est que l'espèce, elle a modifié ses comportements. Et donc, il faut essayer d'extraire de toutes les modifications qu'on peut observer, de voir si ça traduit simplement un changement de comportement et des déplacements d'aires de reproduction ou d'aires de migration ou d'hivernage, ou si, en lien avec ces changements climatiques, il y a aussi des effets sur la taille des populations. Et pour revenir à l'exemple de la Bretagne, il y a une espèce qui s'appelle le Pouillophytis, par exemple, où il a été montré, avec les comptages qui sont faits, que les changements climatiques qui interviennent en Bretagne, à la fois durant la phase migratoire et sur les zones d'hivernage, sont impliqués dans la régression de cette espèce, en tant qu'une espèce nicheuse en Bretagne, par exemple.
Alors, quelles sont les zones les plus touchées en Bretagne et par rapport à d'autres régions, peut-être en France ou d'autres pays ?
Alors, ce n'est pas vraiment des zones qui sont plus touchées que d'autres, parce que selon les espèces que l'on considère, qui peuvent être des canards, des limicoles, des passereaux, il y a des zones de concentration qui répondent aux besoins de telle ou telle espèce. Donc les répercussions qu'on va observer vont varier en fonction de quelle est l'espèce que l'on regarde plus en détail. Et donc on va chercher à suivre sur les endroits où elle est concentrée. Et à l'échelle nationale, c'est la même chose. En période hivernale, on a des zones de concentration de telle ou telle espèce qui existent parce que les conditions locales sont favorables à l'alimentation de l'espèce en question.
Qu'est-ce que les oiseaux viennent chercher chez nous en Bretagne, Bernard ?
Les oiseaux, ils viennent chercher chez nous des conditions qui sont plus clémentes, avec un climat plus doux que dans les zones plus nordiques où ils se reproduisent. Certaines espèces viennent d'autres zones de la mer du Nord, voire de Scandinavie, où les conditions hivernales, on a de la neige, on a des plans d'eau qui sont gelés, etc.
L'impact du réchauffement climatique change donc les itinéraires de migration des oiseaux. Comment cette modification impacte-t-elle les écosystèmes de Bretagne ?
Alors, c'est pas vraiment l'itinéraire des oiseaux qui change, c'est les distances qu'ils vont parcourir, parce qu'ils avaient un trajet migratoire qui partait des zones de reproduction pour arriver sur les zones d'hivernage. Avec le réchauffement climatique, les zones favorables sont de plus en plus nordiques. Donc, en fait, les oiseaux, ils s'arrêtent plus tôt qu'ils ne le faisaient auparavant. C'est-à-dire que certains vont s'arrêter en Espagne au lieu de descendre de l'autre côté du détroit de Gibraltar. D'autres vont rester plus au nord que la Bretagne, par exemple. Donc c'est des changements dans la longueur du trajet migratoire, en quelque sorte.
Ça a un impact sur les nidifications, peut-être la période de reproduction aussi ?
Alors après, comme ils sont plus près des zones de reproduction et comme les conditions sont plus clémentes, le trajet migratoire va aussi être plus précoce. Et après, au niveau de chaque zone, que ce soit les zones de reproduction ou les zones d'hivernage, les deux éléments clés qu'il faut prendre en compte, c'est d'une part la température et d'autre part les précipitations. Puisque ces deux facteurs-là vont pouvoir entraîner des modifications au niveau des écosystèmes. Ça peut être l'étendue d'une zone humide, ça peut être la croissance de la végétation. Et donc ces éléments-là vont avoir des répercussions en termes d'abondance des ressources alimentaires qui sont disponibles pour les oiseaux et qui vont pouvoir avoir des effets, des répercussions, soit sur la survie des oiseaux pendant la période hivernale, soit sur le nombre de jeunes qui vont être en capacité d'élever en fonction des capacités alimentaires du milieu.
Alors comment vous, au sein de Bretagne Vivante, vous agissez sur cette problématique ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Alors depuis plusieurs décennies déjà, que ce soit les salariés ou les bénévoles de Bretagne Vivante, ils réalisent des suivis ornithologiques sur différentes espèces en période de reproduction, en période d'hivernage. Et ces suivis permettent de collecter des milliers de données et ensuite justement d'analyser les tendances, que ce soit en termes d'évolution numérique, en termes d'évolution spatiale de la répartition ou en termes d'évolution temporelle, c'est ce qu'on disait, sur les périodes de migration, est-ce qu'elles sont plus précoces, qu'est-ce qu'on observe, etc. etc.
En termes de moyens dont vous disposez, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour faire toutes ces études, ces observations ?
Les moyens financiers ne sont malheureusement pas à la hauteur des enjeux et c'est pour ça que l'investissement des dizaines ou des centaines de bénévoles sont essentiels pour pouvoir collecter de la donnée. Mais après, collecter de la donnée nécessite aussi de les analyser derrière et évidemment, si on avait plus de moyens, on pourrait avoir des études plus poussées qui pourraient être, ou au moins des analyses de résultats qui soient plus intéressantes.
Comment les zones protégées, réserves naturelles en Bretagne, doivent-elles s'adapter pour répondre à ces nouveaux défis posés par le changement climatique ?
Bon, déjà, les réserves naturelles, à l'échelle de la Bretagne, elles ne sont pas toutes gérées par Bretagne Vivante. On en a des qui sont en milieu continental, on en a des qui sont en milieu marin, donc les répercussions ne sont pas les mêmes. Bretagne Vivante, qui gère la réserve naturelle des marais de Séné, se pose des questions, par exemple, au sujet de la montée des eaux, qui peuvent avoir des effets majeurs, notamment sur ces zones de marais endiguées, comme il en existe dans le golfe du Morbihan. Et après, en milieu terrestre plus continental, c'est toutes les questions qui concernent favoriser le maintien d'une mosaïque d'habitat qui est favorable à un ensemble d'espèces. Voilà. C'est ces éléments-là qui prendront en compte et de voir comment les répercussions du changement climatique peuvent avoir des effets sur les arbres, sur la végétation, sur les milieux de manière générale et quelles sont les répercussions que ça peut entraîner au niveau des oiseaux.
À la fin du reportage, David Lédan souligne l'importance d'informer les collectivités, les privés, chasseurs, des découvertes faites et d'indiquer que telle espèce végétale ou animale est menacée. Comment les collectivités saisissent de ces problématiques à l'échelle de la Bretagne, Bernard ?
Alors déjà, de manière générale, l'information et la sensibilisation du public, quel qu'il soit, c'est un élément indispensable parce qu'on ne fait attention qu'à ce que l'on connaît bien. Donc si on n'explique pas aux gens pourquoi il y a des espèces qui sont en danger, pourquoi il est important de protéger des espaces naturels et des espèces, ben, ils peuvent continuer d'avoir des mauvaises pratiques sans nécessairement en être conscients. À l'échelle des collectivités, il y a par exemple des collectivités qui ont lancé des atlas de la biodiversité communale, par exemple, où il faut inventorier les différentes espèces présentes sur la commune. Il y a différentes démarches qui peuvent être mises en place pour favoriser la biodiversité à l'échelle d'une commune. Et toujours pareil, il est nécessaire d'avoir de l'information et de la sensibilisation pour expliquer pourquoi il faut changer de pratique ou pourquoi il est important de faire ceci ou de faire cela. C'est essentiel, si on veut que le message passe comme il faut.
Et vous menez des ateliers, j'imagine, pour sensibiliser aussi, Bernard ?
Déjà, sur les réserves naturelles, c'est des sites qui accueillent du public, notamment en période printanière et estivale. Donc, il y a des informations qui sont diffusées. On a aussi des animateurs qui interviennent en milieu scolaire, qui vont expliquer un certain nombre de choses aux enfants. Et puis après, à l'occasion de différentes manifestations, des forums, des salons, etc., on va aussi avoir des stands avec des bénévoles qui vont essayer de faire... Toujours pareil, contribuer à faire passer les messages. Après, il y a des informations qui sont diffusées sur le site internet de Bretagne Vivante. Il peut y avoir des communiqués presse. On essaye de faire passer à chaque fois que l'actualité le nécessite des informations, comme ça a été le cas lorsque la nouvelle liste rouge des oiseaux de Bretagne a été diffusée. Il y a eu une communication qui a été faite à ce sujet, par exemple.
En tant que cornithologue, observateur, y a-t-il de récentes découvertes ou perspectives encourageantes en matière de préservation de la faune face aux changements climatiques que vous avez pu faire avec vos collègues ?
Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que le changement climatique est un facteur d'impact important, soit, mais les principaux facteurs liés aux activités humaines, ils portent sur la modification des habitats. Il a été montré que la mécanisation de l'agriculture a engendré la disparition des haies. L'utilisation massive des produits phytosanitaires a aussi un impact sur les oiseaux, sur leurs proies. Et il y a une étude européenne qui a été publiée en 2023 qui montre que globalement les populations de passereaux ont diminué de 25% en 40 ans et que pour les espèces des milieux agricoles, ce déclin est de 60%. Donc l'élément changement climatique, il va se surajouter à des changements majeurs qui sont liés déjà à des activités anthropiques, puisque le changement climatique, il est aussi directement lié à un impact des activités humaines. Donc ça fait un facteur en plus.
Comment on peut agir pour enrayer un peu tout ça ?
Pour enrayer un peu tout ça, l'actualité montre que la fin des énergies fossiles, c'est la volonté politique pour y arriver est un peu limitée. Voilà. Après, c'est des changements de pratique. La succession des événements climatiques majeurs, la succession des périodes de canicule montreront aux gens qu'on vit dans un monde qui évolue et qu'il est temps de changer, que ça les touchera directement, ils changeront peut-être de vision des choses. Le message à faire passer est compliqué.
Et en tant que citoyen, comment on peut apporter notre pierre à l'édifice pour protéger les oiseaux ?
Avoir un comportement responsable, quand on est dans les espaces naturels, on ne jette pas ses déchets sur le parking ou dans la nature, on ne va pas déranger les espèces, qu'elles soient sur leur zone d'hivernage, en train de se reposer sur un haut de plage ou sur des rochers ou bien sur leur zone de reproduction. Et puis après, c'est aussi apporter un soutien aux actions de conservation des sites naturels ou un soutien aux associations qui œuvrent pour la protection de l'environnement, justement.
Quels sont les chantiers peut-être sur lesquels vous êtes actuellement sur ces thématiques-là, Bernard ?
Justement, je parlais tout à l'heure de la réactualisation de la liste rouge des oiseaux de Bretagne qui, sur la base qui est réactualisée tous les 5 à 10 ans environ, sur la base des derniers éléments qui sont collectés, de façon à pouvoir mettre en perspective ce qu'on observe et pouvoir justement diffuser l'information indiquant que le nombre d'espèces menacées augmente et que si ce nombre d'espèces menacées augmente, c'est en lien avec des activités humaines qu'on peut lister, les pratiques agricoles, le changement climatique, etc., etc., voire la montée des eaux qui peut aussi menacer des zones de reproduction de certains oiseaux marins et côtiers, par exemple.
Et par rapport aux dernières années, là où on a eu effectivement des étés caniculaires, est-ce que vous avez vu une progression, un déclin de certaines espèces ou est-ce que vous avez vu des changements assez extrêmes, disons ?
Je vous parlais tout à l'heure du Pouillofitis, dont les populations déclinent en Bretagne, justement en lien avec ces changements. Après, souvent, ce qui se passe, c'est que il y a des modifications qui sont liées à... il y a moins d'eau, il y a moins de croissance de plantes, où les plantes... poussent moins vite ou moins bien. Voilà, donc ça va entraîner une raréfaction des proies, quel que soit le type d'oiseau. On a des oiseaux qui sont insectivores, on a d'autres qui sont granivores, d'autres qui ont une alimentation beaucoup plus opportuniste. Donc en fonction des caractéristiques écologiques des espèces, on a des effets qui peuvent être plus ou moins importants. Parce que je parlais tout à l'heure des événements style grosse averse de grêle ou autre qui peuvent ponctuellement entraîner une forte mortalité des oiseaux aussi. Voilà, donc il y a des événements nouveaux qui apparaissent. Mmh. Et c'est dans ce contexte-là que tout ce qui a été collecté durant les dernières décennies est important pour avoir un niveau de base qui permet de comparer ce qu'on observe aujourd'hui avec ce que l'on observait auparavant.
Alors si nos auditeurs souhaitent aller un petit peu plus loin sur le sujet, Bernard, quel site, ouvrage conseillez-vous ?
Sur le site internet de Bretagne Vivante, on peut trouver des informations, notamment sur la liste rouge régionale des oiseaux. On peut trouver également des rapports qui sont publiés annuellement sur les tendances des populations d'oiseaux nicheurs, sur les tendances des populations d'oiseaux hivernantes. Et après, au niveau des ouvrages, il y a un ouvrage récent publié en 2023 qui s'appelle « L'histoire contemporaine des oiseaux de France », paru aux éditions Delachaux et Niesley, publié par Philippe Dubois. Et il y a un autre ouvrage qui s'appelle « Oiseaux et changement global entre menaces et aubaines » qui prend en compte tous les aspects liés aux modifications de l'environnement par les activités humaines, qui est paru en 2015 aux éditions QAV et qui a été publié par Jacques Blondel.
C'est noté. Bernard Cadieu, merci. Je rappelle que vous êtes ornithologue au sein de l'association Bretagne Vivante, bretagnevivante.org. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en diffusion sur votre radio associative locale en Bretagne et sur Radio Boa, votre radio régionale, également en podcast sur le site internet corlab.org, rubrique podcast, émission Biodiversité on Air. À bientôt pour un nouveau numéro de notre magazine dédié aux actions en faveur de la biodiversité en Bretagne. D'ici là, prenez soin de vous et donc prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.